Toutes et à tous. Alors maintenant, on ne m'annonce plus, donc je monte de moi-même pour ce temps de prédication qui a pour titre « Christ, notre chef suprême ». Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour remettre ce moment. Notre Dieu, quel plaisir de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir nous mettre à ton écoute. En étant convaincu que c'est toi qui parles et qui parle cet après-midi. Merci parce que nous voulons tout simplement être disposés à t'écouter après avoir chanté tous ces chants, après aussi cette prise de conscience que Jésus doit être le centre. Et nous te prions, Seigneur, que cela soit une réalité dans notre vie, jour après jour. Et nous avons besoin de toi aussi, Seigneur, pour que à présent, nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire cet après-midi. Que ton esprit ouvre notre intelligence pour que nous soyons convaincus par le message que tu veux nous adresser. Et merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que ce que tu as révélé il y a si longtemps est encore d'actualité. Nous te louons pour cela, pour ce moment où nous pouvons nous mettre à l'écoute de ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous te faisons cette prière. Amen. En tout cas, c'est vrai qu'au début du culte, il n'y avait pas beaucoup de monde, et je me suis dit, mais ils sont tous partis en vacances. Mais bienvenue, en tout cas, aux uns et aux autres. Bienvenue pour aussi ce temps où nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Et assurément, eh bien, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas fait le chemin pour rien. Et Dieu vous a conduit jusque-là pour entendre sa parole. Nous poursuivons cet après-midi notre série de prédications sur cette épître aux Colossiens, écrite par Paul, « Christ au centre », la série qui s'intitule « Christ au centre ». Et comme je l'ai évoqué la semaine dernière, cette série vise quatre objectifs. D'abord, le fait d'aimer, d'adorer Christ encore plus. Deuxièmement, que cela puisse nous amener à vivre une vie où Christ est suffisant. Troisièmement, à vivre une vie qui soit enracinée en Christ. Et puis enfin, dernier objectif, de cultiver la reconnaissance. Et comme pour chacune de ces lettres, l'apôtre Paul écrit en réponse à des circonstances particulières. L'église de Colosse, dont il n'est pas le fondateur, a bien reçu, a bien accueilli l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont donc d'authentiques chrétiens qui manifestent de l'amour pour les autres. Et Paul remercie Dieu pour cela au début de sa lettre. Il remercie Dieu pour cet amour que les Colossiens ont pour les autres. Et la semaine dernière, avec Ruben, eh bien, nous avons aussi regardé en détail ce que Paul et Timothée demandent dans leur prière. Nous lisons par exemple au verset 9, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans quel but ? Eh bien, dans le but qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, qu'ils puissent vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est aussi ce que nous devrions demander à Dieu pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs en Christ. Que nous comprenions ce que Dieu veut, afin de vivre comme il le veut. Que nous comprenions ce que Dieu veut afin de vivre comme il le veut. Et qu'est-ce que le Seigneur veut ? Eh bien, d'après les mots de Paul, au verset 10, nous voyons que le Seigneur veut que nous portions du fruit en faisant le bien. Deuxièmement, le Seigneur veut que nous puissions toujours mieux le connaître. Troisièmement, que nous puissions nous appuyer sur sa force pour pouvoir persévérer et être patients. Et puis, il y a un quatrième élément, et c'est ce que nous voyons au verset 12, qui va être le début de notre texte d'aujourd'hui, que nous soyons joyeusement reconnaissants. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut que nous soyons joyeusement reconnaissants. Et pourquoi les chrétiens peuvent-ils exprimer sans hésitation une joyeuse reconnaissance ? Eh bien, c'est ce que nous allons lire ensemble dans le texte d'aujourd'hui. En Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 23. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors que les Colossiens sont tentés de s'écarter de la voie de l'Évangile en se laissant influencer par d'autres spiritualités, Paul met l'accent sur ce que Dieu a fait pour eux par Jésus-Christ. Et ce sont des choses que les Colossiens ne sont pas censés ignorer. Eux qui ont entendu l'Évangile, ils savent de quoi Paul est en train de parler ici. Et pourtant Paul trouve nécessaire, inspiré par le Saint-Esprit, de leur dire tout cela. Ils le savent, mais Paul trouve nécessaire de le dire encore une fois. Et il est bon pour nous aussi que l'Évangile de Jésus-Christ nous soit rappelé. C'est notre socle. L'Évangile est notre socle. C'est par l'Évangile que nous avons cru en Christ. Et c'est par l'Évangile que nous grandissons dans la foi en lui. Alors, sans cesse, nous revenons à l'Évangile. Et dans les versets qui nous intéressent, pour encourager les Colossiens à demeurer dans la foi, eh bien, Paul oriente leur attention, et par la même occasion, notre attention, premièrement sur celui qui nous a délivrés. C'est ce que nous voyons dans les versets 12 à 14. Ensuite, il oriente notre attention sur le chef suprême, celui qui est décrit dans les versets 15 à 20. Et puis enfin, il oriente notre attention sur celui qui nous donne une espérance, les versets 21 et 23, à 23. D'abord, focalisons notre attention sur celui qui nous a délivrés. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà rêvé d'être l'héritier, l'héritière d'une des plus grosses fortunes du monde. Ou de faire partie d'une famille royale. Et je ne commenterai pas le fait d'avoir de tels désirs ou de tels rêves. Et parce que nous ne faisons pas partie de ces familles, eh bien nous n'aurons jamais part à de tels héritages. Nous sommes comme des étrangers qui ne peuvent en aucun cas prétendre à de tels héritages. Et lorsque Paul parle de l'héritage des saints au verset 12, il fait référence à tout ce que les chrétiens auront une fois qu'ils seront dans la lumière, une fois qu'ils seront dans le royaume de Dieu. Et sans l'action de Dieu, aucun Colossien ne pouvait y prétendre. Ils étaient autrefois, comme l'écrit Paul au verset 21, ils étaient autrefois étrangers. Mais voilà que Dieu a manifesté sa grâce et a fait d'eux des héritiers. Ils ne devaient pas prétendre à un tel héritage, mais Dieu, dans sa grâce, a fait d'eux des héritiers. Et voilà pourquoi les Colossiens ont des raisons de remercier leur Père céleste. Ils sont désormais du côté de la lumière, ils sont désormais du côté de Dieu, eux qui ont été délivrés du pouvoir des ténèbres. Vous le voyez, ce pouvoir des ténèbres, au verset 13. Ils en ont été délivrés. Avant de connaître l'Évangile, ils étaient prisonniers, ils étaient esclaves du péché, esclaves de ces ténèbres. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu est intervenu pour opérer un transfert. Les chrétiens sont passés d'un monde de ténèbres au royaume lumineux du Fils de Dieu. Il y a eu un transfert. Et le langage que Paul emploie est bien celui d'une libération. Si vous regardez le verset 13, plutôt le verset 14, il est question de rédemption, c'est-à-dire le fait d'être racheté grâce à une rançon. Le fait que nous ayons été rachetés parce qu'une rançon a été payée. Et nous le savons bien, cette rançon, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce prix-là que nous avons été libérés. Christ est mort pour notre liberté, pour que nous ne soyons plus prisonniers de ténèbres, mais que nous soyons libres. Lui qui a été puni à notre place pour nos péchés, afin que Dieu nous pardonne. Et j'aimerais que cet après-midi, nous puissions encore mesurer, une fois de plus, que le pardon de Dieu nous a été accordé à ce prix-là. Dieu ne pardonne pas si un innocent ne meurt pas à notre place. Si Christ n'était pas mort à notre place, il n'y aurait pas de pardon. Et nous serions encore dans les ténèbres. Prenons maintenant un peu de recul et considérons ce thème de la délivrance que Dieu opère. Essayons de considérer ce thème tout au long de l'histoire du salut. Et je vous ai fait un petit tableau pour récapituler cela. Dans l'histoire d'Israël, nous voyons qu'il y a deux grands moments où Dieu intervient pour délivrer son peuple. L'histoire que vous connaissez bien, c'est celle de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Dieu délivre son peuple en le faisant sortir d'Égypte pour l'amener vers un héritage. Quel héritage? Le pays de Canaan, la terre promise. Le peuple n'est pas resté très longtemps fidèle à Dieu et après plusieurs siècles, eh bien, Dieu a chassé ce peuple loin de son pays. Ils se sont retrouvés donc en exil, mais Dieu a opéré une deuxième délivrance, une grande délivrance, en leur permettant de revenir de leur exil, en leur permettant de quitter le pays des Babyloniens pour revenir vers leur terre d'héritage, le pays d'Israël. Deuxième grande délivrance. Mais là où Dieu fait très fort, et là où nous sommes concernés directement, c'est cette troisième délivrance. Le fait que Dieu délivre les hommes et les femmes des ténèbres. Alors, ce n'est plus une délivrance en chassant des ennemis physiques devant nous, mais c'est une délivrance spirituelle pour nous permettre de pouvoir avoir part à un héritage qui n'est plus juste un pays, mais le royaume de Dieu. Vous voyez comment Dieu, dans l'histoire, a voulu montrer ce modèle de la délivrance. Délivrer quelqu'un, délivrer un peuple pour pouvoir l'amener vers un héritage. Et c'est exactement ce qu'il fait avec les chrétiens. La délivrance dont Paul parle dans notre texte est la plus grande que nous puissions espérer dans cette vie. C'est la plus grande que nous puissions espérer aussi dans l'histoire de notre humanité, avant même la délivrance complète au retour de Christ. Il n'y a pas de plus grande délivrance à attendre. Nous l'avons déjà obtenue en Christ. Et c'est la plus grande de l'histoire. Alors, en repensant à cela, en revoyant un petit peu l'histoire, en repensant à ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons, je crois, qu'être reconnaissants envers notre Père céleste. Dans sa bonté, il a bien voulu faire de nous des héritiers. Dans sa bonté, il a bien voulu nous libérer du péché pour que nous ne soyons plus au service du mal. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce sujet de reconnaissance est permanent pour nous. Et très concrètement, cela signifie que dans la semaine qui vient, que nous passions une bonne ou une mauvaise journée, nous aurons toujours ce sujet de reconnaissance. Parce qu'une mauvaise journée ne change pas ce que Dieu a fait pour nous. Une mauvaise journée n'annule pas la plus grande délivrance de l'histoire. Alors chaque matin, tu peux te lever avec ce sujet de reconnaissance. Et nous pouvons tout à fait prier ainsi. Merci mon Père de m'avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage que tu réserves à ton peuple dans ton royaume. Merci de m'avoir délivré du pouvoir des ténèbres et de m'avoir transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui j'ai été racheté et en qui je suis pardonné de tous mes péchés. Oui, nous pouvons prier de cette manière-là. Et chaque soir, tu peux te coucher avec ce même sujet de reconnaissance. Et n'oublie pas ce soir en particulier, quand tu vas te coucher, que si Dieu n'était pas intervenu dans ta vie, tu serais encore dans les ténèbres, loin de lui. Concernant l'œuvre du salut, Paul a parlé de Dieu le Père au verset 12, et il a parlé aussi de son Fils bien-aimé au verset 13. Et donc, tout logiquement, les versets 15 à 20 vont être centrés sur le Fils bien-aimé de Dieu. Et à présent, eh bien, Paul oriente notre attention sur celui qui est le chef suprême. Les commentateurs considèrent que nous avons dans ces versets 15 à 20 un bel hymne, un hymne christologique, c'est-à-dire au sujet de Christ, et en même temps on pourrait dire christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. Certains pensent qu'il s'agit là de la reprise d'un hymne qui existait déjà dans l'Église primitive. Et d'autres pensent plutôt que ces versets sont une composition originale de Paul. Dans tous les cas, comme l'ont relevé plusieurs, ce morceau poétique a une structure tout à fait remarquable. Et j'aimerais simplement vous le démontrer en images. Observez simplement, par le jeu de couleurs que j'ai pu mettre dans ces versets-là, comment ce texte est structuré. Comment, finalement, Paul, ou peut-être un hymne qui était déjà connu à l'époque, comment cet hymne est composé. Et je peux admettre que nous ne soyons pas tous sensibles à la poésie. Mais soyons reconnaissants envers Dieu qu'il y ait de tels chefs-d'œuvre dans sa parole. Et je ne vais pas tout commenter dans le détail, et vous l'avez peut-être fait dans votre étude biblique, mais pour ma part, je vais souligner trois vérités concernant Christ, à partir de ces versets-là. Premièrement, Christ est le chef suprême de toute la création. Et s'il est désigné au verset 15 comme le premier-né de toute la création, ce n'est pas pour dire qu'il a été la première créature, parce que cette compréhension contredirait tout ce qui est dit après. Christ est le premier-né dans le sens qu'il tient le premier rang. Il est celui qui est en fait au-dessus de la création. Il ne fait pas partie de la création, il est au-dessus. Il tient le premier rang. Il est le premier-né dans ce sens-là. Il est le chef de la création. Il existait avant toute chose. Et lui qui est l'image parfaite de Dieu, celui par qui nous pouvons connaître Dieu, a participé lui-même à la création. En lui, par lui et pour lui, comme vous le voyez dans le texte, toutes choses ont été créées. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Et observez comment ce tout dépend de lui. Toutes choses subsistent en lui. Si en ce moment même le monde n'est pas en train de s'écrouler, c'est parce que tout subsiste en lui. Si nous sommes encore en train de respirer à ce moment-là, c'est parce que tout subsiste en lui. Et sur une seule décision de sa part, tout pourrait s'arrêter. Mais il ne le fait pas. Ayons conscience que si nous sommes vivants, c'est parce que toute chose subsiste en Christ. Et nous avons lu tout à l'heure, en tout cas durant le moment de louange, une partie du prologue de l'évangile de Jean qui présente Jésus comme l'agent de la création. Voilà, Christ est le chef suprême de toute la création. Deuxième vérité, Christ est le chef suprême de l'Église. Alors cela semble cohérent, puisqu'il est le chef de tout ce qui a été créé, eh bien il est aussi le chef de l'Église. Et par l'image du corps, eh bien Paul indique le lien solidaire qui existe entre Christ, la tête, et l'Église, son corps. Sans la tête, on ne parlerait pas de corps. Et c'est grâce à lui, grâce à Christ que l'Église existe. Que des hommes et des femmes se convertissent et deviennent ainsi de nouvelles créatures. Et vous remarquez ici que comme pour la jeunesse du monde, Christ est au commencement de la nouvelle création. Il est, au verset 18, le premier-né d'entre les morts. Le premier à ressusciter avec un corps glorifié. Il est ce que nous appelons parfois le nouvel Adam. Il est le nouvel Adam qui inaugure la nouvelle création. Et Paul développe davantage d'ailleurs ce thème dans sa première lettre aux Corinthiens. Il serait intéressant de lire tout le chapitre 15, mais je vais simplement mentionner deux versets. D'abord, le verset 47, 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Nous parlons d'un côté d'Adam et de l'autre de Christ. Et au verset 49, nous lisons « Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » Ici, nous avons la promesse que celles et ceux qui appartiennent au Seigneur auront un corps semblable au sien lors de son retour. Et il fallait donc que Christ soit le premier à ressusciter. Troisième vérité, Christ est le chef suprême qui a donné sa vie pour que tout rentre dans l'ordre. Vous voyez que celui qui a toute la plénitude de Dieu en lui, celui qui est entièrement Dieu, a joué un rôle capital pour que toute la création soit réconciliée avec lui. Et Paul évoque ici, de manière très explicite, son sacrifice à la croix, un sacrifice qui est sanglant. Et c'est par ce moyen-là, par la croix, que la paix est possible. La paix, bien sûr, entre Dieu et les hommes, mais aussi la paix entre Dieu et le reste de la création. Ce qui est sur la terre, comme ce qui est dans les cieux. Comprenons que le péché a tout gâché, a tout gâté, a tout gâché dans la création, a mis du désordre dans la création. Or, à la croix, le péché a été vaincu. Le péché qui devait nous tenir éloignés de Dieu a été vaincu puisque grâce à la croix, au lieu d'être condamnés, nous sommes pardonnés. Et puisque le péché a été vaincu, il est normal que cela ait des répercussions sur l'ensemble de la création. Oui, grâce à la croix, un jour, tout rentrera dans l'ordre. L'harmonie sera pleine et entière. Et cette réconciliation cosmique ne signifie pas que tous seront sauvés, mais que même ceux qui ne le seront pas cesseront de contester, cesseront de faire la guerre à Dieu. Au contraire, ils reconnaîtront ce que Paul écrit ailleurs, aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, cela comprend aussi ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous comprenons alors que le chef suprême de toute chose, le chef suprême de toute la création est le même qui a donné sa vie sur la croix pour que toute chose soit réconciliée avec Dieu. Et le propre d'un hymne comme celui-là est de nous conduire à l'adoration. Christ est ce chef suprême qui a donné sa vie pour que tout rentre dans l'ordre. Et cet après-midi, nous qui sommes une partie de son Église, nous qui lui appartenons, eh bien soyons promptes à adorer celui qui est la tête de l'Église. En communiquant cet hymne, l'apôtre Paul voulait sans doute que les Colossiens, à qui l'on enseignait le culte des anges, eh bien ne s'intéressent pas aux anges, mais à celui qui est au-dessus d'eux, au chef suprême de toute la création. De nouveau cette semaine, ne passons pas à côté d'occasion de penser à celui qui est le premier en tout et à l'adorer. Nous n'avons pas besoin d'attendre dimanche prochain. Et la semaine dernière, j'ai demandé si nous estimions que notre vie était centrée sur Christ. Et je pense qu'il nous faut, et je dis bien nous parce que je m'inclus dedans, qu'il nous faut laisser toujours plus de place à la louange dans notre quotidien. Que ce soit par des chants, que ce soit par des prières, que ce soit par des poèmes. Vous avez peut-être déjà écrit un poème pour vos parents ou pour la personne que vous aimiez, mais c'est à Christ que nous devrions adresser nos plus beaux poèmes. Alors, je vois des sourires. Il y a eu des essais. Mais c'est à Christ que nous devons nos plus beaux poèmes. Que cet hymne puisse nous rappeler cela, puisse nous rappeler que c'est lui qui mérite toute l'adoration. Parce qu'il est le chef suprême. Il mérite cela. Donc, si l'envie vous en prend, durant cette semaine, d'écrire un poème, pensez à Christ. Après cet hymne christocentrique, Paul revient aux Colossiens. Il s'adresse de nouveau à eux pour les exhorter à demeurer dans la foi. Et justement, en se focalisant sur celui qui leur donne une espérance. Mais avant d'en venir à cette espérance, j'aimerais parler, vous raconter un témoignage que j'ai lu cette semaine dans le dernier magazine de Portes Ouvertes. C'est une certaine Rena, une Colombienne qui a fait partie autrefois d'un groupe armé qui était hostile aux chrétiens. Et voici ce que Portes Ouvertes nous rapporte. Rena était une ennemie de Dieu, mais un jour, elle a rêvé qu'elle descendait dans les profondeurs de la terre, dans un tunnel effrayant et très froid. Elle s'est mise à supplier Dieu, s'il existait vraiment, de la sortir de là. Et quand elle s'est réveillée, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Rena a prié, jeûné, lu la Bible et s'est repentie de sa vie passée. Puis elle a commencé à servir Dieu comme responsable d'église. Jusqu'au jour où un homme l'a menacée. Elle devait cesser d'évangéliser et rejoindre les groupes armés. Sinon, elle mourrait. Rena lui a répondu, « Je ne travaillerai pas avec vous. Je mourrai quand Dieu l'aura décidé et je continuerai à le servir. » Et depuis, eh bien, des hommes l'espionnent et la harcèlent encore. Mais Rena tient bon. Et voici ce qu'elle dit pour conclure. « Pour tout ce que Christ a fait pour nous, il mérite d'être servi, quelles que soient les circonstances. » Pour tout ce que Christ a fait pour nous, il mérite d'être servi, quelles que soient les circonstances. Et ces dernières paroles, eh bien, montrent non seulement que Rena a compris l'œuvre de Christ pour elle et pour les autres croyants, mais aussi que cela a changé sa vie. Et dans notre texte, eh bien, Paul aussi parle de ce changement qui a eu lieu chez les Colossiens depuis qu'ils ont accepté l'Évangile. Regardez le verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Avant de connaître Christ, tout être humain est ennemi de Dieu. Toute la vie d'un être humain est orientée contre Dieu, même si la personne n'en a pas conscience, dès lors que ses pensées et ses actes sont du côté du mal. Dès lors que ses pensées et ses actes sont du côté du péché et des ténèbres. Avant de connaître Dieu, avant de connaître Christ, tout être humain est ennemi de Dieu. Les Colossiens étaient autrefois ainsi, ennemis de Dieu. Mais Dieu a changé leur situation comme il l'a fait pour Rena, comme il l'a fait pour les chrétiens qui sont dans cette salle. Et Paul peut ainsi affirmer que ce que Christ a accompli sur la croix a déjà un effet présent pour les Colossiens. Vous voyez bien au verset 22, « Il vous a maintenant réconciliés. » Ils ne sont donc plus ennemis de Dieu. Et bien plus, cette réconciliation doit aboutir à ce que les anciens ennemis de Dieu soient entièrement transformés pour paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Vous remarquez la chronologie qui nous est donnée ici. Une chronologie qui est la même pour tous les chrétiens, à savoir, autrefois ennemis de Dieu, maintenant réconciliés avec Dieu grâce à la croix, pour paraître plus tard sans défaut. Autrefois ennemis, maintenant réconciliés, pour paraître sans défaut plus tard devant lui. Et il n'y a rien de plus éloigné du langage biblique que de dire d'un chrétien qu'il ne changera jamais. Il n'y a rien de plus faux que de dire d'un chrétien qu'il ne changera jamais. Notre espérance est précisément que nous changions complètement. Notre espérance est précisément que Dieu ôte toute trace de péché en nous. Cela nous semble impensable dans la réalité de ce monde. Et pourtant, c'est l'espérance de l'Évangile auquel nous avons cru. Qu'un jour, il n'y aura plus de traces de péché en nous. Et dès à présent, nous bénéficions de la réconciliation avec Dieu en vue de cette transformation totale. Nous sommes réconciliés avec Dieu en vue d'être complètement transformés. Et cette dernière étape, que nous appelons aussi la glorification dans le langage théologique, eh bien, cette dernière étape n'est pas encore là. Les Colossiens ne sont pas encore parvenus à la perfection. Et c'est pourquoi, dans ce contexte-là, eh bien, dans ce contexte où ils étaient tentés de s'écarter de l'Évangile, Paul leur dit ceci au verset 23. Je relis un petit peu avant. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Verset 23, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile. Si vraiment vous demeurez dans la foi. Je vous montre simplement cette image pour vous montrer un petit peu les différentes étapes de la vie chrétienne. La dernière étape étant la glorification. Comme dans l'ascension d'une montagne, si nous nous arrêtons au milieu du chemin, ou si nous prenons une autre route, jamais nous n'atteindrons le sommet. Et ça, vous le savez. Si vous avez déjà fait de la randonnée, si à un moment donné, vous abandonnez votre chemin, jamais vous n'atteindrez le sommet. Et la raison est simple. C'est parce que nous aurons cessé de persévérer. Nous aurons abandonné, tout simplement. Paul doit dire aux Colossiens qu'ils paraîtront devant Christ saints, sans défaut et sans reproche, à une condition, s'ils demeurent dans la foi, s'ils restent attachés à cette espérance, en restant attachés à celui qui leur donne cette espérance. Et c'est important que nous puissions l'entendre aussi, que nous ne puissions pas nous dire que l'ascension va se faire tout seul. Les chrétiens ont une responsabilité. Et effectivement, si les Colossiens s'écartent de ce qui fait leur espérance, en commençant à s'intéresser à d'autres spiritualités, eh bien ils se mettent en danger, sérieusement en danger. Et de même, en ce qui nous concerne, si nous commençons à nous écarter de l'Évangile, à suivre d'autres choses, nous nous mettons en danger. Sérieusement. Aucun chrétien ne peut se permettre de manquer de vigilance. Aucun chrétien ne peut se permettre de ne pas faire preuve de persévérance, de se dire « j'abandonne, j'arrête de grimper ». Bien sûr, et il faut que je le souligne aussi, si nous parvenons un jour au sommet, si nous parvenons un jour à nous présenter saints devant le Seigneur, ce sera son œuvre efficace en nous. C'est à lui que nous le devrons. Mais le Seigneur ne nous dispense pas de faire des efforts. Le Seigneur ne nous dispense pas de faire des efforts dans la vie chrétienne, dans cette marche de sanctification, en sachant que nous faisons ces efforts, mais en comptant toujours sur son aide. Nous faisons des efforts, mais nous comptons toujours sur le fait que c'est Dieu qui nous transforme. Et notre principal effort, comme pour les Colossiens, est de demeurer fermement dans la foi, solidement ancré dans la foi, sans nous écarter de toutes les vérités que nous avons dites jusque-là. Et c'est pourquoi, pour un petit peu fermer la boucle par rapport à ce que je disais au début, c'est pourquoi il nous faut toujours revenir au message de l'Évangile. C'est pourquoi il nous faut toujours revenir à Christ qui est au cœur de cet évangile. C'est ce même évangile qui était prêché à toute créature sous le ciel et dont Paul est devenu le serviteur. C'est ce que nous lisons au verset 23. Nous n'avons pas hérité d'un autre message. C'est le même message. Mais ce message, nous en avons tellement besoin pour grandir, pour avancer, pour persévérer. Pour persévérer, les chrétiens ont besoin de l'Évangile, ont besoin de se rappeler jour après jour comment Dieu les a délivrés du pouvoir des ténèbres et comment leur chef suprême a donné sa vie pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Jour après jour, nous devons nous rappeler que ce que Dieu a fait pour nous, pour que nous ayons une part dans son royaume, pour que nous puissions être héritiers, pour que nous puissions paraître irréprochables lors de son retour. Alors oui, à Christ, notre chef suprême, nous devons tout. Rien à nous-mêmes, mais tout à lui. Et dans les prochaines semaines, dans la suite de l'Épître aux Colossiens, eh bien nous verrons encore en quoi consiste une vie enracinés en Christ. Mais déjà dès maintenant, pensons à cela. Pensons à la persévérance. Retenons pour notre texte trois réponses à ce que Dieu nous dit cet après-midi. Premièrement, en nous focalisant sur celui qui nous a délivrés, répondons par la reconnaissance, et une reconnaissance joyeuse. Deuxièmement, en nous focalisant sur notre chef suprême, répondons par l'adoration. Et troisièmement, en nous focalisant sur celui qui nous donne une espérance, répondons par la persévérance. Reconnaissance, adoration et persévérance. Ce sont ces trois attitudes qui doivent rythmer notre semaine. Que nous sachions aussi nous encourager les uns les autres dans ce sens-là. Et que nous puissions laisser Dieu nous rappeler l'Évangile autant de fois que nous aurons besoin, jusqu'au retour de Christ. Et quand Christ reviendra, tout rentrera dans l'ordre, dans le ciel comme sur la terre. La mort de notre chef suprême sur la croix est la garantie que les événements iront dans ce sens-là, dans le sens où tout rentrera dans l'ordre. Est-ce que vous prenez conscience de cela ? À la croix, tout a été accompli, jusqu'à la fin de l'histoire et jusque pour l'éternité. Tout a été accompli durant cet événement historique, à ce moment-là précisément, pour que l'histoire aille dans ce sens où tout rentrera dans l'ordre. Trois réponses que nous puissions y penser durant cette semaine. Reconnaissance, adoration et persévérance. Prions ensemble. Oui, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Te remercier parce que c'est toi qui as inspiré l'apôtre Paul pour qu'il puisse écrire cette lettre aux Colossiens. Et aujourd'hui encore, si nous avons cette liberté entière d'y avoir accès, eh bien, nous te le devons. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que, oui, pour celles et ceux d'entre nous qui t'appartiennent, tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage que tu réserves à ton peuple, dans ton royaume. C'est toi, Seigneur, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés dans ton royaume, dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et c'est en Christ, effectivement, que nous avons le pardon des péchés. Et nous voulons adorer Christ de tout notre cœur parce qu'il est l'image de qui tu es. Il est le premier-né de toute la création, le chef suprême de toute la création. Et en lui, toute chose subsiste. Il est aussi le chef de notre Église. Et nous voulons te rendre grâce parce que c'est lui aussi qui est le premier-né d'entre les morts et qui inaugure la nouvelle création. Cette nouvelle création qui aussi nous concerne parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et tout cela pour que nous puissions attendre le moment où tout sera réconcilié avec toi. Où ceux qui t'appartiennent reconnaîtront pleinement ta seigneurie, mais aussi ceux qui ne veulent pas te reconnaître aujourd'hui et qui peut-être persévéreront dans leur péché sans te reconnaître. Eh bien, un jour aussi, ils te reconnaîtront. Tout rentrera dans l'ordre que tu as déterminé. Et il ne peut en être ainsi d'un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas laisser le désordre perdurer, mais tu mettras un terme à tout cela. Et tout cela a été possible parce que Christ a donné sa vie. C'est à la croix que tout s'est joué. Et c'est pour cela, Seigneur, que par la même occasion, nous te demandons, aide-nous, Seigneur, à persévérer, à rester attachés à l'espérance que tu nous as donnée. Oui, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec toi, mais nous avons encore besoin de persévérer. Nous avons encore besoin de faire des efforts. C'est ce que tu nous demandes, tout en comptant sur ton œuvre en nous, tout en comptant sur le fait que c'est toi qui nous amèneras au sommet. Mais permets-nous, Seigneur, jour après jour, et particulièrement pour la semaine qui est devant nous, de pouvoir marcher dans cette persévérance, en comptant sur toi. Et merci, parce que tu nous ramènes toujours à l'Évangile. Tu nous ramènes toujours au cœur du message biblique, pour que nous puissions grandir à partir de ce socle, et que nous puissions toujours plus aller dans le sens de ta volonté. Oui, notre espérance, c'est qu'un jour, nous soyons complètement transformés, sans aucune tache, sans aucune trace de péché en nous. Et ça, c'est ce que tu accompliras. Et c'est avec une telle espérance que nous te prions, au nom de Jésus. Amen.